Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 27. Deuxième cours sur le Perek Rav Zayin. Le thème dans le Perek Rav Zayin, on essaie d'expliquer la gravité de la déprime. La gravité de la déprime, d'accord, comment c'est vraiment une personne qui est déprimée, qui n'est pas Bessimra, ne peut pas avancer dans la vie. Une personne qui est déprimée, ça peut lui donner beaucoup de mauvaises choses, au point que il n'est pas bien, au point que il a angoissé, donc automatiquement le tsar, il fait ce qu'il veut de lui. On a expliqué qu'il y a plusieurs types de déprime. Comment on l'a expliqué? Premier type de déprime qu'on a expliqué dans le chapitre 26, c'est quoi? Celui qui est déprimé parce qu'il a des malheurs dans sa vie. Là, on a expliqué, il faut se dire que les malheurs, en vérité, viennent de qui? Ils viennent de Akadosh Baruch Hu. Là, je reviens pas dessus. Deuxième thème qu'on a développé la semaine dernière, des fois, les gens, ils sont déprimés, pas parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Ils sont déprimés parce qu'ils ont des pensées pas cachères qui viennent dans leur tête. Ça les déprime. Il se dit, si avec tout le travail de teshuva que j'ai fait, avec tout ce que je me prépare pour Rosh Hashanah, pour autant, dès que je vois une femme passer, on dirait, je sais pas ce qui s'est passé, et... alors automatiquement, je commence à devenir déprimé de ça, je me dis, mais finalement, est-ce que mon travail vaut quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit plusieurs points. On a dit, on doit savoir qu'une personne qui est déprimée de ça, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Pourquoi? Parce que comme il est orgueilleux, il se prend pour un tzaddik. Et comme il se prend pour un tzaddik, il se dit, c'est pas normal par rapport à l'image que j'ai de moi-même, que moi je pensais être un tzaddik, c'est pas normal que j'ai des pensées comme ça qui me viennent dans la tête. Et si en vérité, il s'estimait à sa juste valeur, qu'est-ce qu'il aurait su? Il aurait su qu'en vérité, il n'est pas tzaddik. Que déjà, comme on avait dit, alva et qu'il soit un benoni. Et c'est quoi le benoni? Le Benoni, on a dit, il a des pensées qui lui viennent dans la tête, mais il le repousse à chaque fois. Et chaque fois qu'il le repousse, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que vous avez une pensée tordue qui vous vient dans la tête et que vous la repoussez, qu'est-ce que vous faites? Fais mitzvah. Donc toi, t'es déprimé parce que tu dis, comment ça se fait que j'ai des pensées comme ça? Qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, c'est pas de ta faute, c'est des pensées comme ça. Le fait que la pensée, elle vient dans ma tête, ça, je suis pour rien. À partir de quel moment je fais la vera une fois que la pensée est venue dans ma tête et je la laisse dans ma tête? Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple, c'est comme si on me prend du poison. On le met dans ma bouche. J'ai rien fait, on l'a mis dans ma bouche. Et qu'au moment où le poison il est dans ma bouche, il y a la possibilité de le recracher. Est-ce qu'on peut me critiquer sur le fait que le poison est arrivé dans ma bouche? Pas du tout. S'il est arrivé dans ma bouche, je suis pour rien que quelqu'un me l'a mis. Sur quoi on me critiquera? Sur le fait qu'une fois qu'il était dans ta bouche, puisque tu t'es rendu compte que c'est du poison, pourquoi tu l'as pas craché? C'est la même chose. On avance dans la vie, on a des fois des pensées tordues qui nous viennent dans la tête. Comme du poison. Mais je maîtrise pas comment ils arrivent. Ils arrivent. Et c'est pas de ma faute. Je marche dans la rue, pac! Ça tombe. J'ai rien fait. Seulement, à un moment, je me rends compte que c'est du poison. Et là, on va voir la différence entre celui qui va dire, bon, c'est vrai que c'est du poison, mais c'est bon. Alors il va manger. D'accord? Et l'autre qui va dire, c'est vrai que c'est dur, mais comme je sais que c'est du poison, alors je vais le cracher. Deux approches. D'accord? Et ce qu'il dit ici? Il dit ici, il faut surtout pas être déprimé de ça qu'on a des pensées tordues, parce qu'on a, c'est pas notre faute. C'est comme ça qu'on a été créé. Et au contraire, il faut savoir que chaque fois qu'on repousse le Yitzhara, automatiquement, en vérité, on est en train de faire une mitzvah. Ça, on s'est arrêté dessus la semaine dernière. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait expliquer comment, en vérité, chaque fois qu'on repousse le Yitzhara, non seulement que intérieurement, j'ai gagné un combat, et que ça veut dire au niveau personnel, à l'échelle personnelle, il y avait une guerre et que j'ai gagné. Mais on a expliqué, on a commencé à expliquer la semaine dernière, qu'en vérité, chaque fois que je me bats avec mon Yitzhara et que je gagne, c'est pas seulement mon Yitzhara que je gagne. Je suis en train de repousser un petit peu le mal du monde entier. D'accord? Mais ça, il faut qu'on développe. On va développer aujourd'hui. Ça veut dire, notre but ici, c'est d'expliquer pourquoi une personne qui fait teshuva et qui continue à avoir des pensées tordues dans la tête, pourquoi il ne doit pas être déprimé de ça? À condition, bien sûr, qu'il le repousse à chaque fois. Pourquoi il n'est pas déprimé? Par exemple, imaginez par exemple quelqu'un qui a pris ce soin de faire Shabbat. D'accord? Maintenant, avant, pour lui, dès qu'on lui disait vendredi soir, c'est synonyme de boîte de nuit. Bon, maintenant, Baruch Hashem, il a fait teshuva, il ne va plus à la boîte de nuit. Bon, il se dit avec le temps, ça va passer. Et pourtant, tous les vendredis soirs, quand il rentre de la synagogue, qu'il passe à côté, et qu'il voit les gens comme ça danser, Tiens, il y a une petite voix qui lui dit, t'as vu ce que tu rates. Et ça l'énerve. Il dit, mais comment je peux penser à ça encore? Qu'est-ce que lui répond le Morazaken? Le Morazaken, il lui dit, si tu étais un tzadik, t'aurais plus eu ces pensées. Mais il y a que 0,001% de gens qui sont tzadikim. Tout le reste sont benoni. Ils essayent de les donner. C'est quoi benoni? C'est qu'il a la pensée qui lui vient dans la tête et il n'y pense pas. Et c'est différent. D'accord? C'est un travail différent. Donc tu dis à Morazaken, non seulement que tu ne dois pas être déprimé, mais au contraire, tu dois être besimcha. Tu dois être besimcha, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de faire une mitzvah, la mitzvah de ne pas te détourner derrière ton cœur, et la mitzvah de servir, de servir à Akadosh Baruch Hu. Alors, on a expliqué, on dit maintenant, bonsoir. On a dit que, quand une personne, il repousse le mal, quand une personne, il repousse une pensée négative de sa tête, non seulement que c'est une micro-victoire contre son Yetzirah, mais en vérité, il est en train de repousser le mal du monde. Donc ça veut dire que ça a un impact sur tout le monde, sur tout l'univers, chaque fois que je me bats avec mon Yetzer Hara. Et ça déjà, c'est rassurant. Vous savez, les Juifs, on aime bien les grandes choses. On aime bien les choses qui sont grandes. Et quand on te dit, que chaque, comme on va développer, que chaque fois que tu te bats avec ton Yetzer Hara, c'est pas seulement ton Yetzer Hara que tu gagnes, c'est le mal du monde que tu gagnes, là c'est déjà autre chose.
Merci.
Alors on va expliquer. Ubechol Tria Utria. Page 21, en haut de la page. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ah, monsieur Benita, vient d'arriver.
Voilà.
Alors, voilà, trop tôt pour les questions. Alors, justement, est-ce qu'on va en parler? Aujourd'hui, justement, on va parler des forces du bien et des forces du mal. C'est quoi cette histoire des forces du bien et des forces du mal? Parce que, si vous voulez, on a toujours cru que c'est un combat personnel. Ça me concerne que moi. D'accord? C'est, j'ai une force positive en moi, une force négative, et bon, j'essaie de me battre, et des fois je gagne pas. Mais là, apparemment, on essaye de nous rendre un acteur qui a un impact sur toute la planète, sur tout l'univers. Pourquoi? On va expliquer. Alors, il dit maintenant. Dit, ou bechol tria. Donc, je suis en haut de la page 21. L'étude du 4 Adar. Bechol tria ou tria. Merci.
Ah, c'est les Chaïm, ça? On fait une dose de Chaïm.
Ouais. Alors, on va lire dans les mots quelques lignes. En haut de la page 21. Ubechol tria ou tria, shemedchaou mimarshavto. Chaque fois qu'on va repousser le yetzer hara, on va repousser une mauvaise pensée de sa tête, de sa pensée. Il kafia les sitra achar aletata. Alors, grâce à ça, les forces du mal en général dans le monde, ils vont se fléchir un petit peu. Il explique la question d'Avraham. Avraham dit, mais quel rapport? Je m'occupe de moi. Qu'est-ce que tu me dis que quand je suis en train de me travailler sur moi, finalement, je suis en train de changer le monde? Il explique. Il dit, ubeitaruta dil tata, itaruta dil ela, veikafia sitra hara dil ela. En vérité, je vais traduire d'abord littéralement ce qu'il dit ici, et après on va commenter. Alors, si on prend la traduction, et par l'éveil d'en bas, il suscite un éveil d'en haut. Quel est l'éveil d'en bas? Quel est l'éveil d'en haut? De quoi on parle?
C'est ce qu'on fait en bas.
Attendez.
L'éveil d'en bas.
Kadosh Baruch Hu, il a créé un principe dans le monde. Il a créé un principe que l'homme est le but de la création. Ça veut dire que tout ce qui a été créé, tout l'univers qui a été créé, c'est quoi le but de tout ça? C'est pour l'homme. Alors, c'est écrit Gam et Aolam Natan Belibam. Shlomo HaMelech, dans l'exécialiste, dans Kohelet, il dit que Gam et Aolam Natan Belibam, Akadosh Baruch Hu, il a mis le monde dans leur cœur. Ça veut dire quoi? C'est en fait l'idée qui expliquait longuement qu'il y a le microcosme, il y a le macrocosme. Il y a beaucoup de similitudes entre l'homme et le monde. Par exemple, de la même manière que, est-ce que vous savez combien de pourcents dans la Terre, combien de pourcents il y a d'eau et combien de pourcents il y a de terre?
80% d'eau et 20% de terre.
Entre 80 et 85%.
À peu près.
D'accord, d'eau et le reste de terre.
Comme l'homme.
Exactement comme l'homme. La même chose, kiff. Il y a plusieurs similitudes. Qu'est-ce que dit le Zohar? C'est quelque chose qui est connu, ça. Qu'il y a le microcosme et le macrocosme. Qu'en vérité, l'homme est comparé à un petit monde. Pourquoi on dit que l'homme est comparé à un petit monde? Parce qu'en vérité, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et que le but de l'univers, c'est pour qui?
Pour l'homme.
C'est pour l'homme. Dans l'homme, il y a l'image de tout l'univers. Puisque tout l'univers a été créé pour l'homme. Et donc, qu'est-ce que ça nous avance? Il te dit ici, quand moi je fais un petit combat à mon échelle, à l'échelle personnel, moi je crois que j'ai rien fait, j'ai fait un petit combat à l'échelle personnelle. Mais en vérité, quand par exemple, à l'échelle personnelle, je me bats avec mes forces du mal. J'ai les forces du bien, c'est mon bon penchant, et les forces du mal, c'est mon mauvais penchant. Quand je me bats, et que, Baruch HaShem, je réussis à gagner et à faire fléchir les forces du mal, étant donné que le microcosme, ce qui se passe chez l'homme, rappelle ce qui se passe dans le monde, et bien de la même manière, dans le monde aussi, il y a un combat, il y a une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Il y a Ahmadinejad d'un côté, il marche mot, et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent faire du bien. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Et quand moi, dans mon petit monde à moi, j'arrive à faire fléchir les forces du mal devant les forces du bien, quand moi, dans mon petit monde, j'arrive à faire fléchir le Yetzer Hara devant le Yetzer Tov, eh bien automatiquement, c'est une répercussion dans le monde entier que dans le monde, les forces du mal ont un peu moins de force. Ça veut dire que en faisant Teshuva, en essayant de ne pas faire des Averot, en essayant de faire fléchir le Yetzer Hara, ben finalement j'ai un impact planétaire sur le monde entier, sur les forces du mal. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, mais ça on va le développer par la suite. Il faut savoir, juste une seconde, on va expliquer justement. Il faut comprendre que les forces du mal existent que à cause de nous. Je vais expliquer ce que je veux dire. Vous savez ce qui est écrit? C'est écrit que lorsque ma chair va venir, le mal va cesser d'exister automatiquement. Vous savez pourquoi? Parce que les juifs vont arrêter de fauter. Et qui c'est qui donne l'énergie au mal? C'est l'Ebné Israël. C'est nous. Chaque fois que je faute, moi je crois que j'ai fait une petite avéra. Mais en vérité, en faisant ma avéra, en donnant la place au Yetzara, et ben de la même manière, dans le monde, on va plus donner de place au mal. C'est comme ça. C'est exactement comme un miroir. Il y a d'ailleurs une image, une très belle image que l'Admor HaZaken dans un autre endroit dans les Gerata Tshuva. Il dit c'est comme l'image de l'ombre. Vous avez déjà vu une ombre? D'accord. Quand vous voyez l'ombre ici sur Terre, qui a avancé de 10 cm, ça veut dire que le soleil est bougé de combien?
Oh là, des kilomètres.
Des milliers de kilomètres.
Bien, oui, bien, oui.
Et pourtant, en bas, elle a bougé de combien?
Oui, oui, à cause de la distance.
En bas, elle a bougé de 10 cm. La balade Mourazaké dit c'est la même chose. Il dit, l'homme, il est en bas. D'accord? Et ce qui se passe dans le monde, c'est en haut. Moi, je crois des fois, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une petite pizza, une petite avéra, j'ai rien fait du tout. J'ai bougé un petit peu le pion. Mais quand tu bouges un pion ici, tu bouges en vérité des milliers de kilomètres en haut. Et ça a un impact. Ça veut dire qu'en haut, ils attendent de voir ce que tu fais. Et quand toi, tu bouges un pion, en haut aussi, ils bougent le pion. Quand moi je donne un peu de force à mon Yitzhara, je laisse un peu de place, alors Dieu il dit, bon, bah ça veut dire dans ce cas-là, on va laisser un peu de place aux forces du mal. Quand moi je dis non, mon Yitzhara, toi je te laisse pas parler, hop, j'écoute mon Yitzhara Tov maintenant, j'écoute mon bon penchant, et ben Kadosh Baruch Hu dit de la même manière, les forces du mal leur donnent moins de place. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer, parce que on le voit pas. Mon Yitzhara, je le connais. D'accord? Je vois devant mes yeux que des fois je lui laisse la place, des fois je lui laisse pas de la place, ça je le sens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'en vérité, le combat personnel que j'ai a un impact sur tout l'univers. Et que quand moi je montre à Kadosh Baruch Hu que je pousse le mal, et bien automatiquement le mal du monde entier est repoussé. D'ailleurs, juste, donc c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, j'en ai mentionné la semaine dernière, Beitaru Tadil Tata, Itaru Tadil Ela. Suite au réveil d'en bas, vient le réveil d'en haut. Le réveil d'en bas, c'est l'effort de l'homme. Le réveil d'en haut, c'est l'effort d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a des fois dans lesquelles Akadosh Baruch Hu fait le premier pas et nous on fait le second pas. Mais en général, c'est le contraire. En général, Dieu, il attend de voir ce qu'on va faire. Et par rapport à notre comportement, il va appliquer la même règle par rapport au monde. Ça veut dire que les gens, ils pensent, on va amener Mashiach. Pour amener Mashiach, amène Mashiach en toi déjà. Si je vais amener Mashiach en moi, ça veut dire quoi? Je mets de côté mon mal et j'essaie de te faire développer mon bien. Et bien pareil, Dieu il dit, puisque Mendy Assouline a fait un effort de mettre de côté son mal et de laisser exprimer son bien, alors moi aussi dans le monde, je vais pousser un peu les forces du mal, je vais les mettre un peu dehors du monde pour laisser plus les forces du bien s'exprimer. Enfin, ça veut dire quoi?
C'est très abstrait. Hein,
c'est pas abstrait du tout. On le voit pas.
Ben oui, donc c'est abstrait.
Non, abstrait c'est pas abstrait, on le voit pas, dites plus simple.
Ben, quand on voit pas, ça veut dire que c'est abstrait.
Non, abstrait c'est quelque chose qu'on...
Ben, voilà, c'est de l'imagination.
Non, c'est pas de l'imagination, c'est comme ça que ça se passe.
Le Yetzer Hara est en haut ou en bas?
On a l'Aïmouna, c'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon qui dit, que Gam et Tol, Anatam Belibam. Le Yetzer Hara c'est les forces du mal. La même manière que... C'est en vérité, il faut bien comprendre l'idée du microcosme et du macrocosme. La même manière que dans mon petit monde à moi, j'ai un combat entre les forces du bien et les forces du mal, et que malheureusement, qui c'est qui gagne en général?
Du mal.
C'est le Yetzer Hara, d'accord? De la même manière, c'est comme ça dans le monde. Quand il y a un combat entre les forces du bien et les forces du mal, qui c'est qui gagne en général? C'est malheureusement, c'est les mauvais. Mais si nous on fait un effort, si moi j'ai fait un effort dans ma vie, de faire en sorte, qui c'est qui va gagner? C'est les forces du bien, c'est mon Yetzer Tov. Et bien automatiquement, Kadosh Baruch Hu dit, dans le monde aussi, on va faire comme ça. On va laisser gagner les forces du bien. Ça veut dire que quand je fais ma petite mitzvah et ma petite avéra, en vérité, ça a un impact sur le monde entier. Moi, je crois que je bouge un pion. Mais ce pion, en vérité, on est en train de bouger comme l'image de l'ombre. On est en train de bouger quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, au passage, la balade Mourazakan dans Igaret HaTshuva, il dit, ça, c'est aussi la notion, par exemple, on voit ici-bas, hein, une personne qui a fait une avéra, on lui dit, tu vas amener un corban, tu vas amener un sacrifice. Ben, c'est quoi un sacrifice? Eh bien, les sacrifices, c'était une omelette. Donc, elle a fait une avéra, tu lui amènes une omelette. Mais attendez, je suis sérieuse, moi. Je veux donner, je veux payer. Il amène une omelette. Quelle omelette? Ouais, ben, il y avait aussi un veau, il y avait aussi des bœufs, etc. Mais c'est quand même, ça reste quand même petit. Qu'est-ce que répond le Mourazakan là-bas? Mourazakan là-bas, il répond, il dit qu'en vérité, ici-bas sur Terre, quand on bouge un petit pion, ça bouge beaucoup en haut. Et là-bas, il explique aussi la même chose par rapport aux épreuves. On va rouvrir une petite parenthèse par rapport aux épreuves. Il dit, pourquoi il faut remercier Akadosh Baruch quand on a une épreuve qui arrive en bas et qu'elle n'arrive pas en haut? Parce que en bas, pour 1% d'épreuve que tu as, ça équivaut à 1000% en haut. C'est exactement comme l'image de l'ombre. C'est-à-dire qu'en bas, quand on te fait bouger un petit peu en bas, ça correspond à des milliers de souffrances que tu aurais en haut. Donc c'est pour ça qu'il faut dire merci Hachem. Quand tu es puni en bas, tu n'es pas puni en haut.
Alors bon, la punition d'en bas, elle est moins lourde que celle de là-haut.
C'est pas qu'elle est moins lourde, c'est qu'elle est plus concentrée.
Mais si on a un et là-bas, il y a un mille.
Elle est plus concentrée. Elle est plus concentrée. En haut, c'est beaucoup plus large. C'est grand. C'est l'univers, c'est l'espace. Ici, c'est plus concentré, mais en vérité, c'est la même chose. Quand je bouge, ça bouge partout. Comme l'écran des roues. Tu bouges une petite roue, d'accord? Comment il a dit là-bas avec, avec l'écran d'une roue, on peut faire tourner le monde. C'est énorme. C'est-à-dire que si on arriverait à faire des roues et d'enchaînement de roues, on peut faire tourner le monde avec ça.
Comme une montre.
D'accord? Parce que, mais une montre, c'est petit. Mais avec le système.
Des multiplications.
Des multiplications, exactement. C'est la même chose. Moi, je fais une petite mitzvah, j'ai bougé un petit cran. J'ai dit, mais j'ai rien fait, j'ai bougé un petit cran. Mais ce petit cran-là, il peut engager un autre cran, et au bout du compte, on a bougé un immeuble.
Exponentiel.
C'est exponentiel. Et ben c'est ça. Une mitzvah, c'est un petit cran que je tourne, mais en vérité, il a une portée exponentielle. Donc c'est la même chose. Quand tu tournes le cran à droite, exponentiellement, ça va tourner à des milliers de kilomètres à droite. Je tourne à gauche, ça va tourner à des milliers de kilomètres à gauche. C'est la même chose. Quand moi, dans ma petite vie, je tourne à droite, ça veut dire, j'écoute mes forces du bien, j'écoute mon Yetzer Tov. Dans le monde entier, le bien a plus sa place. Quand de l'autre côté, malheureusement, je fais des avérotes, eh ben je donne la place au mal. C'est ce qu'il dit ici. Les Kayem Hashekatou, on va reprendre les mots. Donc Vekafia Sitrahara, pardon.
Mais qui c'est qui est habilité pour juger que ce que j'ai fait, c'est vraiment du bien? Moi, il me donne pas la réponse.
Mais
c'est vrai. Enfin, j'ai pas d'éléments pour me dire bon, effectivement, c'est bien. Je suis dans le.
Monsieur Benita, bon, c'est pas le sujet.
La règle de la théorie.
C'est pas le thème ce soir. Notre référentiel, c'est la Torah. Si on croit pas en la Torah, on perd son temps.
Non, c'est pas une question de ne pas croire. Mais
bon, j'ai compris.
Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose?
Notre référentiel, c'est la Torah. C'est tout. J'ai pas dit forcément qu'on comprend pourquoi le bien c'est le bien.
Non, mais parfois c'est
non, puis en même temps, on est jugé par.
Monsieur Benita, bon, je reviens tout de suite la parenthèse. Quand vous avez un gars de Daesh qui est en train de se battre avec un Américain de l'autre côté, du GI, d'accord? Chacun il pense qu'il fait le bien. Qui c'est qui a raison? Le gars de Daesh, il est persuadé qu'il fait du bien. Il fait ça pour le prophète.
Oui, mais
l'Américain, il est aussi persuadé qu'il fait le bien. Qui a raison?
Mais
qui
l'un et l'autre
la vérité
voit la vérité.
J'ai compris. Alors qui a raison? Qui a raison?
Ils ont raison.
D'où je sais, moi, que c'est l'Américain qui a raison et pas le gars de Daesh. Parce que j'ai la Torah. Et la Torah, elle me dit, c'est mon indicateur, la Torah, elle me dit, celui-là, c'est ce qu'il fait, c'est bien, celui-là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Sans la Torah, l'un comme l'autre peut avoir raison. Le curseur, c'est le mot que tu veux. Mais on parlera de ça après, si vous voulez. Bon. Donc. Veikafia sitra harad il eila amagbiat makanesha. Quand, moi, je fais un petit effort. Donc, rappelez-vous, ça, c'est les mots du Baal HaTanya, de la Dmourazakaen. Pour rassurer la personne qui a dépensé pas bien sa tête, et qu'il est dégoûté. Il dit, moi, j'ai pas envie d'avoir dépensé. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un, directement, j'ouvre le livre, je kiffe, y a pas de problème, j'avance. Mourazakan, il lui dit, si t'as que dépensé normal et que t'as pas dépensé pas cachère, comment on va repousser le mal? Le mal est repoussé par le fait qu'on te met dépensé comme ça, et tu le repousses. Si tu crois que dès que tu fais tes choix, tu deviens tzadique, alors comment on va repousser le mal du monde? Le mal du monde peut être repoussé uniquement par le fait qu'un juif repousse le mal de sa personne.
Il faut que ça soit.
Donc, avec ça, on le rassure, on lui dit, ne sois pas déprimé. D'abord, tu n'es pas tzadique, donc ne sois pas déprimé. Sache que tu fais une mitzvah chaque fois que tu repousses le mal, et sache que quand tu repousses le mal, tu changes le monde. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, la question qu'on va se poser, tu vas dire, dans ce cas-là, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas dit de Sarah? puisque tu me dis que c'est tellement important de repousser le mal, ah, pourquoi les tzadikim n'ont pas de tzara comme nous? Pourquoi il y a des gens qui ont du mal, des gens qui n'ont pas du mal? Apparemment, d'après ce cours de Tania, tu me dis c'est bien d'avoir le mal. Quand on propose du mal et je le repousse, je change le monde. Ah, pourquoi les tzadikim ne propose pas du mal? D'accord? C'est pas logique. On va expliquer. Le kayem hashekatu, pour accomplir ce qui est écrit. Im takbiya kan nesher, misham oridcha neumashem. On dit que les forces du mal, ils s'élèvent kan nesher, ils s'élèvent comme un aigle. Vous savez, c'est quoi la différence entre le bien et le mal? Le bien, c'est l'humilité. Le mal, c'est l'orgueil. Ça, on le voit. Par exemple, c'est quoi le symbole d'un tzaddik? Quand vous imaginez dans votre tête un tzaddik, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? L'humilité.
C'est quelqu'un d'humble.
D'un autre côté, quand vous imaginez quelqu'un qui est, d'accord, quelqu'un qui est, au contraire, qui est un rachat, d'accord, comment il est? C'est pile le contraire. Il s'élève comme un aigle, du style, c'est moi le roi du monde, et s'il y a un autre qui est plus haut que moi, je vais l'écraser parce que c'est moi qui vais être le roi du monde. C'est ça en vérité le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal, ils te disent, plus haut je monte, mieux je suis. Les forces du bien te disent, plus bas tu descends, plus tu te rabaisses, mieux c'est. Et en vérité, ce combat planétaire et universel qu'il y a dans le monde, on le retrouve aussi chez moi. D'un côté, il y a mon Yetzer qui me dit « écrase-toi ». Plus tu te tais, mieux c'est. Fais ce que Dieu te demande, c'est tout. D'un autre côté, il y a mon Yetzer qui dit « attends, parlez-moi aussi, moi j'ai envie de te dire quoi faire. Moi j'ai envie de ça, mais c'est moi qui décide, c'est moi le patron ici. » Exactement le même combat qu'on a entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal veulent s'élever comme un aigle, les forces du bien veulent au contraire être soumises. On a exactement le même combat dans le microcosme chez l'homme. Les forces du bien, le Yetzer Tov, il veut être humble devant Akadosh Baruch Hu, le Yitzhara, il veut être orgueilleux. Eh bien, quand on va prendre le Yitzhara, qui s'est élevé comme un aigle, et on va le prendre gentiment, on va le mettre par terre. On va dire, hein, toi tu restes là maintenant, tu te tais. Eh bien, ça a un impact sur le monde entier. Que dans le monde entier, quand de l'autre côté du monde, tu es Ahmadinejad, tu es un Satan, tu es un ange de la mort, qui sont là en train de s'élever et de dire, c'est nous les patrons. Quand moi j'ai rabaissé chez moi, avec le système exponentiel, en vérité ça a rabaissé dans le monde entier. Que le mal du monde a baissé. Seulement, il faut avoir les yeux d'un tzadik pour voir que le taux du mal a baissé dans le monde. Moi j'ai flic bezoar, comme le Zohar dit par Hachat Trouma. Begodel nachad ruach lefana vidbarer kadit kafia sitrachara letata. Maintenant on comprend. Maintenant on comprend pourquoi le Zohar, dans la parachat Trouma, il explique là-bas hein, le plaisir qu'il y a devant Kadosh Baruch Hu, le plaisir, la satisfaction qu'il y a Kadosh Baruch Hu, quand ici-bas, un juif, il va réussir à ikafia sitrahara, à faire fléchir son mal à lui. Qu'on ne comprend pas, a priori, on dit, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de si j'ai fléchi mon mal? Qu'est-ce qu'il en a à faire de si j'ai regardé la femme, si j'ai pensé ou j'ai pas pensé? Qu'est-ce que ça le dérange? Qu'est-ce que ça lui change à Kadosh Baruch Hu? Ça ne change rien du tout. Maintenant, on commence un petit peu à comprendre. Qu'en vérité, cette petite pensée que j'aurai, elle a un impact pas que sur moi, elle a un impact sur tout le monde. Et donc voilà pourquoi on comprend comment Akadosh Baruch Hu dit, quand tu réussis à pousser une pensée de ta tête, quand tu réussis à faire un effort à repousser un peu le mal en toi, il y a un plaisir qui vient. Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir qui va venir, et ce plaisir-là, il va s'étendre dans tous les mondes, il aura un impact dans le monde entier. Et là-bas, le Zohar, il dit des mots magnifiques. Il dit, des istalek, yekara, des kutchabrihu, lorsque un juif, il va faire fléchir son mal à lui, alors automatiquement, la gloire d'Akadosh Baruch Hu va s'élever, elle va monter. Le Eila, Al-Kula, Yatir Mishifra Hara, d'une élévation qui est supérieure à toute l'ange. Tu dis, mais attends, mais c'est quel rapport? Moi, j'ai fait un petit effort. C'était quand? J'avais une pensée, je l'ai poussée. Oui, mais on se rend pas compte. Le petit effort que j'ai fait en vérité, il a changé le monde. Le monde avant ma Avera et après ma Avera, il n'est pas le même. Le monde avant ma mitzvah et après ma mitzvah n'est pas le même. Ça, je pense, un très grand chidouche de Morazaken. Parce qu'encore une fois, jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que quand je fais une Avera, c'est entre moi et Dieu. Ça me concerne que moi, certes. C'est-à-dire, quand je fais une Avera, je casse mon corps, je casse ma neshama, et quand je fais une mitzvah, je répare, j'arrange. J'ai toujours cru que c'est moi et Dieu. Le monde, c'est pas moi, le monde, c'est le monde. Là, on est en train de te dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça a un impact sur le monde. Et c'est automatique, on peut rien y faire. Ça a un impact sur le monde quand je rajoute du bien. Je rajoute du bien dans le monde. Quand je rajoute du mal, je rajoute du mal, chas v'shalom. Je rajoute du mal, chas v'shalom.
Ça a été programmé comme ça
dès le départ. Dès le départ, c'était programmé comme ça. D'accord?
Pourquoi ils ont essayé d'annuler le Yetzarara des mauvaises pensées?
Parce que c'était. On va dire que c'est trop dur.
Mais si on rentre en train de dire que plus tu as des mauvaises pensées, mieux c'est pour le monde.
Il y a le Morazaken. Ça veut dire comme ça. On prie pas à Kadosh, on demande pas à Kadosh d'avoir une mauvaise pensée. Ça, c'est pas shoot. Nous, on lui demande de pas avoir de mauvaise pensée. c'est pas inapproprié de demander dans cette fila à Kadosh Baruch Hu de nous aider par rapport à nos mauvaises pensées. Mais une fois que la pensée est déjà venue, quel est le but d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi t'envoyer cette pensée? Pour que tu l'enlèves. Et quand tu l'enlèves, tu repousses le mal. Ça veut dire que Dieu me donne une opportunité de faire une mitzvah. Et quand je repousse la pensée, je change le monde.
Mais est-ce qu'il vaut mieux ne jamais avoir de pensée ou d'en avoir et de les repousser?
Ça, c'est pas moi qui décide.
Non, parce que tu as dit quand c'est l'état d'équipe.
Ah, ça, j'ai pas encore arrivé à la réponse.
Qu'est-ce qui est mieux?
Ok, il faut expliquer pourquoi c'est l'équipe. On n'est pas encore arrivé à ça. C'est une bonne question. D'accord? Non, mais c'est une bonne question. Ça.
Objectivement. Il vaut mieux quelqu'un qui a toujours eu l'esprit pur tout le temps depuis qu'il est né jusqu'à qu'il meurt, ou quelqu'un qui s'est battu constamment contre les mauvaises pensées qui l'ont assaillie.
Ça, on va en parler.
C'est de nature différente. On ne peut jamais avoir les pensées.
Comment?
Si on a dit au début que le tzaddik, il a une neshama différente d'une personne comme nous.
On ne peut pas avoir.
Donc ça veut dire que peut-être sa neshama, elle ne peut pas réceptionner des pensées comme ça.
Oui, mais ce qui veut dire, c'est que dans ce cas-là, puisqu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure que Dieu, il fait exprès de me mettre une mauvaise pensée, parce que quand je la repousse, je change le monde. Pourquoi on ne voit pas de mauvaise pensée au tzaddikim?
Il
n'est
pas dans ma catégorie, c'est tout.
Mais pourquoi? Mais pourquoi
changer le monde?
Et lui, il ne change pas le monde, le tzaddik?
Bah, peut-être toi a aidé à changer le monde.
Donc, il faudrait expliquer que le tzaddik change le monde différemment. Ça, on va expliquer.
Oui. D'accord. Après, il faut savoir aussi qu'est-ce qui est mieux. On va pas savoir.
C'est pas lui l'acteur du changement.
Ça, on va voir. On va voir. J'avais dit à Michael qu'on aura un début de réponse cette semaine. Tu te rappelles ou pas? Voilà. Ça, c'est dans la suite du Pérec. Tout de suite, là, dans quelques lignes.
Parce que c'est marrant parce que la Gemara là-bas elle dit que lorsqu'ils ont annulé ce Yetzarara de la pensée, ils l'ont remis. C'est pourquoi? Parce que les gens ils n'avaient plus de Yetzarara du tout, ils n'avaient plus de derrière.
Oui, bien sûr. Là on va essayer d'en parler maintenant, on va rentrer plus dans les détails de ça. Pour expliquer la différence entre les Tzadikim et les Benoni, etc., pourquoi Dieu a fait cette différence là. Ça j'y arrive dans quelques minutes. Alors je voudrais m'arrêter maintenant juste quelques instants sur le mot qui dit ici Itkafia. Itkafia. Il a dit que chaque fois que je repousse le Yetzarara de ma tête, chaque fois que je repousse une pensée tordue de ma tête, je fais fléchir le Yetzarara. Pour ça, il employait le terme Itkafia. Alors, vous savez, c'est très simple. Lorsque vous avez un ennemi, il y a deux façons de combattre l'ennemi. Première façon, tu fais fléchir l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, il était là, maintenant je l'ai mis par terre. Deuxième façon, je transforme l'ennemi en ami. Évidemment, c'est laquelle la meilleure?
La deuxième.
C'est la deuxième. D'accord? Donc, dans notre cas, c'est qui mon ennemi?
Ça dépend.
Mon ennemi, c'est le Yetzarara. Le top aurait été de réussir à transformer Itapra, c'est-à-dire de transformer le Yitzhara, qu'au lieu d'être un ennemi, il devient un ami. Mais ça, à moins qu'on soit tzadik, qu'on est incapable de le faire.
Impossible.
La seule chose que nous on peut faire, c'est quoi? C'est Itkafia. C'est quoi Itkafia? Tu le fais fléchir, mais il est toujours là. Quand tu as un ami que tu fais fléchir, maintenant tu l'as mis par terre, mais il est toujours vivant, il est toujours là. Puisqu'il est toujours là, ça laisse entendre que il va se relever.
Oui, mais quand il est
et qu'il faut être intelligent pour ne pas le laisser se relever, parce qu'une fois qu'il se relève, le combat recommence. Donc dès que tu le vois qu'il commence un petit peu à lever la tête, pac, tu lui remets un coup de boule.
Exactement.
D'accord? C'est exactement comme ça, c'est Itkafia. Et ce qu'il dit, c'est l'Admor HaZaken. Il dit qu'il faut savoir qu'avec le Yetzarara, c'est comme ça que ça marche. À moins qu'on soit tzadik qui réussit à transformer son Yetzarara, on n'est pas tzadik, nous. Donc nous, en vérité, c'est un combat constant. Et même quand je crois que j'ai mis Yetzarara par terre, il va revenir à la charge, c'est sûr qu'il va revenir à la charge. Ne dis pas peut-être je l'ai enlevé. Il n'y a pas de peut-être, c'est sûr qu'il va revenir à la charge. Tu l'as mis par terre, si tu l'as mis un très bon coup, peut-être tu l'as mis par terre pour un an, pour deux ans, mais il va revenir à la charge, c'est sûr qu'il va revenir. C'est une question de temps. C'est comme les gars du Hamas. C'est-à-dire la question, selon le coup qu'on leur a donné, est-ce qu'ils vont re-attaquer dans un an, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans? Mais c'est sûr qu'ils vont re-attaquer. Il n'y a pas de question, Bichlal. Celui qui pense qu'ils vont pas re-attaquer, c'est un imbécile. C'est sûr qu'ils vont attaquer. Seulement, on essaie de leur donner un coup le plus fort possible pour leur donner le plus de mal à se relever. C'est la même chose avec le Yitzhara. Le Yitzhara, il faut essayer, quand on se bat avec lui, de le mettre par terre. Et plus tu le mets par terre fort, et plus il va te laisser tranquille. Mais il reviendra. C'est sûr qu'il va revenir. Et chaque fois que je vais le repousser, en vérité, je suis en train de repousser un petit peu le mal. Alors, c'est la même chose. Les gens disent le combat entre le bien et le mal. Dans le monde, il y a un combat entre le bien et le mal. Pour que le mal dans le monde se transforme en bien, il faut attendre Mashiach. Tant que Mashiach n'est pas là, on sera toujours dans le même problème. Ça veut dire que ce sera toujours comme ça. Les gens ils disent, mais on attend, on prie pour la paix, etc. Je vous rassure, la paix n'arrivera pas. La vraie paix, elle n'arrivera pas maintenant. Elle arrivera avec Mashiach.
Ouais.
Tant que Mashiach n'est pas là, on est seulement en mode Itkafia. C'est quoi Itkafia? C'est-à-dire que temporairement, on peut réussir à faire en sorte que le mal s'exprime moins, mais il reviendra. Et on reviendra par un autre angle. Il reviendra, c'est sûr qu'il reviendra. C'est ce qu'il dit ici. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de le mettre par terre. Et je dois savoir que chaque fois que je le repousse, eh ben, en vérité, je suis en train de changer le monde. C'est ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken. Maintenant qu'on a compris ça, l'Admor HaZaken te dit maintenant, il te dit, Velachen, c'est pour ça, je passe à la page 22. Maintenant qu'on a compris tout ça, qu'en vérité, chaque fois que j'ai une pensée qui me vient dans la tête, c'est important, parce que Kadosh Baruch Hu veut changer le monde, et parce que je change le monde. Mais la reine, c'est pour ça. Al, Hippol, alors, Mickaël, c'est pour toi. Là. Toute cette saison, c'est pour toi. Là. Mais la reine, c'est pour ça. Non, pas parce que tu fautes, parce que c'est ta question que tu poses tout le temps. Mais la reine, c'est pour ça. Ah tiens, je vais te donner.
Non, mais c'est bon.
Alors, suivez ensemble. Mais la reine, c'est pour ça. Al, Hippol, Lev, Adami. Reste des livres, je crois, là-bas encore.
Page 22, Mickaël.
Page 22. Retiens là, celle-là, il faut l'imprimer dans la tête. Alors, Velachen, c'est pour ça. Al, Ipol, Lev, Adam, Alav. L'homme ne doit pas être déprimé. Ve'al, Yera, Lev, Avomeod. Et il ne doit pas non plus prendre ça à cœur. Dire, ah, comment c'est possible qu'avec tous les efforts que j'ai faits, comment c'est possible que j'ai encore des pensées? Il te dit, non, ne prends pas à cœur. Bien sûr que tu dois repousser. Alors, attention, il ne dit pas ne prends pas à cœur du tout. Il dit ne prends pas trop à cœur. Parce qu'un juif, ça doit le déranger qu'il a dépensé pas bien. C'est normal. C'est le mois des louls. Il doit se remettre en question. Et il doit pas se dire, bon, on a pris dans le Tania, tout va bien, c'est ok, vas-y, Dieu, envoie les mots, je suis là, vas-y, envoie. Non, c'est pas ce qu'on vient de dire. On dit seulement, on ne prend pas trop à cœur. Pourquoi on ne prend pas trop à cœur? Il dit, Gam imi yeken kol yamav milchamazo. Même si finalement, le Benoni finira par être toute sa vie dans cette guerre. Il va passer toute la vie dans la même guerre pour les mêmes choses. Qui oulaye l'écart nivra. Parce que peut-être c'est pour ça qu'il a été créé. Vezot avodato, et ça c'est son travail. Les kafia les sitra achara tamid, ça c'est son travail, toujours de faire fléchir les forces du mal. Ça veut dire comme ça. Quand j'imagine, quand j'analyse sur le plan personnel, là je peux dire mais j'en ai marre. Ça fait 20 ans que je me bats sur le même problème. J'en ai marre, ça me casse les pieds. J'ai pas changé, c'est pas possible, comment ça marche? Qu'est-ce que tu dis là de Morazaken? Quoi ça te dérange? C'est bien que ça te dérange, c'est normal que ça te dérange. Mais il faut pas que ça te dérange trop, ne prends pas trop à cœur. Parce que peut-être que toute ta vie jusqu'à ton dernier jour, tu vas te battre sur le même combat. Pourquoi? Parce que peut-être tu as été créé pour ça. Peut-être que Kadosh Baruch Hu t'a créé pour le fait que toute ta vie, ton travail sera de repousser le mal qui est en toi. Et en repoussant le mal qui est en toi, automatiquement tu vas repousser le mal du monde. Pour illustrer ça, on va raconter une histoire. On raconte que Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, on raconte qu'une fois, il est venu voir un de ses chassidim et il lui a dit, je vais te dire à quoi tu as pensé pendant ta tefila des Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est Rosh Hashanah Kippour. Imaginez, après Kippour, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il vient voir un de ses chassidim, il lui dit, je vais te dire à quoi tu as pensé pendant ta prière. Waouh. Il lui dit, au début, dans ta prière, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il te donne 10 000 roubles. Comme ça, tu seras tranquille de tous les soucis de Parnassa. Et comme ça, tu pourras étudier la Torah tout le temps. Après, dans ta tefila, tu t'es dit, tu t'es déjà imaginé que Dieu va te donner, tu vois, tu t'y croyais déjà. Tu t'es dit, si à Kadosh Baruch Hu, il va me donner une somme tellement grande, je vais commencer à avoir des grandes affaires, et je serai très occupé, et je pourrai pas servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Alors, t'as dit à Kadosh Baruch Hu, au lieu de me donner 10 000 roubles, donne-moi 5 000. Comme ça, j'ai pas de trop grosses affaires. Mais après, tu as réfléchi, tu te dis non, mais même 5 000, peut-être avec 5 000, on peut faire une belle affaire quand même. Et une belle affaire, ça va me déconcentrer. Alors, comme ça, tu as commencé à descendre, et tu as commencé à dire 5 000, donc de 5 000, tu es passé à 4 000, à 3 000, à 3 000, etc. Alors, il lui dit, et donc à la fin, tu étais resté à ça, bon, à la fin, tu es resté à des petites sommes. Mais il lui dit, Rabbi Nachman de Kotsk, il lui dit, ce que tu n'as pas pensé, c'est que peut-être à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par, ni par ta Torah, ni par ta tefila. Akadosh Baruch Hu est intéressé par tes galères. C'est un très très gros vort, ça. Très puissant, ce qu'il est. Rabbi Nachman de Kotsk, il a des mots très très puissants. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ta Torah et tes mises. Tu dis maintenant, il va me donner 10 000 roubles. Comment on va faire? Mais Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par tes galères. Akadosh Baruch Hu, il est intéressé de voir que quand tu vas surmonter ta galère, tu vas changer le monde. Ça, c'est son plaisir.
Mais pourquoi il a besoin
d'accord. Alors attends. Parce que c'est comme ça que Dieu a décidé. Ça, tu as raison. Parce
c'est
que
d'abord, c'est un honneur. C'est à un homme de lui donner cette comment ça s'appelle cette
ce pouvoir.
Mais pourquoi il a besoin de quelqu'un pour changer le monde alors que même pas en pensant, en commençant seulement à penser ce changement.
Je vais te donner un début de réponse. Il faut savoir que ça, c'est un plaisir qu'Akadosh Baruch Hu a. Et sur un plaisir, on pose pas de questions. Mais je vais expliquer ce qu'est le plaisir. Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit comme, on va utiliser ça dans le chapitre 36. Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est de voir qu'il y a une personne pour qui c'est difficile, et quand même il le fait. Je donne un exemple. Quand par exemple tu as un bébé qui commence à faire ses premiers pas, tout le monde l'applaudit. Pourquoi on l'applaudit? Parce que c'est un chidouche, une nouveauté. C'est un effort qu'il a fait. Avant il ne marchait pas, maintenant il marche. Ce même bébé qui a commencé à marcher, je ne sais pas, à un an, quand il aura 3 ans et qu'il va courir partout, tu vas lui dire arrête de courir. Quelle est la différence? Il y a quand il avait 1 an, tu l'as applaudi. D'accord? Et quand il court à 3 ans, tu le cries, tu lui dis arrête de courir. Qu'est-ce qui a changé?
L'âge?
Non, pas du tout. Pas du tout, c'est très simple. Ce qui a changé, pas du tout. C'est que quand il a commencé à marcher à 1 an, c'était nouveau. Et on aime la nouveauté. Mais quand il marche à 3 ans, c'est plus nouveau, donc on aime plus ce qui est plus nouveau. On veut du nouveau. On veut du sang nouveau, on veut des choses nouvelles. C'est la même chose.
Ou bien.
Pour Akadosh Baruch Hu, le fait que des anges peuvent repousser le mal, ça c'est normal. C'est pas un ridou, c'est pas une nouveauté. C'est sûr qu'ils vont le faire, c'est automatique. On pourrait même pas penser le contraire. Par contre, le fait qu'une personne comme nous, qui n'est pas tzaddik et qui n'est pas un ange, et que quand Dieu lui envoie une épreuve, il dit, je lui envoie l'épreuve, peut-être il va réussir, peut-être il va pas réussir. Un petit peu comme le bébé, tu vois, il est là, tu le vois comme ça, peut-être il va tomber, peut-être il va pas tomber. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Si tu vois, il tombe pas. Ben c'est la même chose. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve, il me regarde comme moi je regarde le gamin comme ça, qui est en train d'essayer de tenir. Peut-être il va tomber, peut-être il va pas tomber. Tu vas dire oui, mais il est tombé. Mais c'est pas grave s'il est tombé. Tu crois que Dieu n'est pas prévu qu'il va tomber? Dieu sait qu'il y a un risque qu'il va tomber.
Donc ça veut dire mais, si il tombe, on lui compte pas comme une.
J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que Dieu le compte pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que Dieu, il a pris ça en compte que quand on met une épreuve à quelqu'un, il y a un risque qu'il va tomber. Quand tu demandes à quelqu'un de faire un challenge, quelque chose qui n'est pas dans sa nature, c'est sûr qu'il risque de tomber. Quand tu lui mets une épreuve devant les yeux, même s'il va tenir 100 fois, peut-être qu'une fois il va pas tenir. Qu'est-ce que t'en sais? Mais encore une fois, ça Dieu il a prévu. Et c'est quoi son plaisir? Son plaisir, c'est quand il voit que bien que c'est difficile, quand même la personne a réussi. Je donne encore un autre exemple pour illustrer ça. Il y a un exemple qui ramène le Midrash. Il dit, il y avait une fois un roi qui voulait passer un peu de bon temps. Il voulait un peu se détendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui amène un perroquet. Un perroquet. Et il a commencé à parler au perroquet. Il dit bonjour. Qu'est-ce qu'il répond le perroquet?
Bonjour.
Bonjour, d'accord. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il répond le perroquet? Comment ça va? Et il répète. Et là, le roi, comme ça, pendant une heure, comme un chmar, il est là en train de... Là, il répète. Alors là-bas, le Midrash pose la question, il dit, mais le roi, il peut avoir tout ce qu'il veut comme plaisir. C'est-à-dire, il peut avoir les meilleurs parleurs au monde. Les meilleurs orateurs au monde qui vont venir lui parler. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait quand il veut se détendre? Il prend un perroquet. Qu'est-ce qu'il kiffe dans le perroquet? Ce qu'il kiffe dans le perroquet, c'est que c'est pas normal qu'un pigeon y parle. Qu'un homme y parle, c'est normal, on a l'habitude déjà. Donc c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. Mais quand tu vois un perroquet qui parle, c'est nouveau. Et c'est la nouveauté qui t'intrigue. Maintenant, le perroquet, il va répéter ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il va t'apprendre des nouvelles choses. Il va répéter ce que moi j'ai dit. Donc je perds mon temps. Mais c'est pas les mots qui m'intéressent. C'est la nouveauté. Le fait qu'il me fait quelque chose de nouveau. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, quand il me met des avérotes, quand il met des pensées dans la tête, Akadosh Baruch Hu, il dit, je peux pas prévoir ce que la personne va faire. Peut-être qu'il va tomber, peut-être qu'il va pas tomber. C'est 50-50. On sait pas comment il va. Des fois, c'est même plus que 50-50. On sait pas comment il va réagir. Et quand la personne réussit, quand même, à ne pas tomber et à repousser le mal, eh ben, grâce à ça, il va changer le monde entier. C'est ça ce que le rabbi de Kosk avait dit à son chassid. Il avait dit, qui t'a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par ta Torah et tes mitzvot? Que tu dis, peut-être qu'à cause de 10 000 roues, je pourrais pas faire la Torah. Peut-être que Dieu est intéressé par tes soucis, par tes galères. Et chaque fois que tu auras une galère et que tu vas la surmonter, tu vas procurer un plaisir à Kadosh Baruch Hu encore plus que ce que le plaisir que tu procures en étudiant la Torah. Ça veut dire que nous, des fois, on croit, je me suis assis pour étudier la Torah, il y a une journée au Baruch Hashem, c'est parti, c'était fluide, j'ai pu étudier 2 heures d'affilée, je dis, ah, aujourd'hui, ça a bien marché. Une autre journée dans laquelle j'ai la tête qui est ailleurs et je me bats et que finalement, sur les 2 heures d'études, j'ai étudié que 10 minutes, je dis, ah, aujourd'hui, c'était raté. Qu'est-ce que tu dis à l'Admorazak? Elle lui dit, non, aujourd'hui, c'était une super journée. Les 10 minutes que tu as fait maintenant, ça vaut plus que les 2 heures que tu as fait hier. Pourquoi? Parce que les 10 minutes que tu as fait aujourd'hui, Dieu, il sait que c'était très dur pour toi. Et c'était pas gagné. Et quand tu as montré que tu as réussi quand même à avoir 10 minutes de Torah, ces 10 minutes, cette petite mitzvah que tu as fait, elle vaut tout l'or du monde. Elle vaut plus encore que les deux heures que tu as fait ici. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que l'Admor HaZaken console le Benoni. Là, il console, si vous voulez, un type de Benoni qui est déprimé par le fait que toute sa vie se base sur les mêmes choses. Il lui dit, t'inquiète pas. Peut-être que c'est pour ça que tu as été créé, que ta mission, c'est de repousser ton mal constamment. Parce qu'en repoussant ton mal, finalement, tu repousses ce mal du monde. Hein, il dit, Admor HaZaken, on va prendre les mots, hein. Il dit.
Alors, il nous envoie des épreuves. Et d'un autre côté, il nous dit, il est Hanoun Verachum, il est miséricordieux.
Mais bien sûr.
Alors,
parce que.
Il est Hanoun Verachum, oui,
mais on va être récompensé pour ça, M. Benita. Mais on est récompensé pour ça. On est récompensé pour ça. Quand il y a une personne qui n'est pas capable de le faire et qui le fait, il est récompensé pour ce qu'il a fait. On n'est pas récompensé au chiffre. On est récompensé par rapport à l'effort qu'on a fait. On avait fait un cours, ça fait quelques mois.
Oui, enfin, normalement, d'accord, il ne doit pas m'envoyer ça, puisqu'il est
Rachum. Justement, le problème, c'est que. Il faut comprendre pourquoi Dieu m'a envoyé ça. Si Dieu m'a envoyé des épreuves, c'est pas seulement pour que je surmonte mon épreuve à moi. Je me dis, oh mince, j'ai une galère, il faut que je surmonte ma galère. Oh, pourquoi je suis dans cette galère? Non. Il y a un but pour un cas de jour où il fait ça. Dieu, il est intéressé par cette galère. Il est intéressé par le fait que je surmonte cette galère. Parce que cette galère, c'est le mal qui est en train de vouloir m'écraser. Et quand j'arrive à pousser le mal, eh ben, je pousse le mal du monde entier. C'est exponentiel. C'est extraordinaire. Maintenant, avec ça, on va comprendre. Maintenant, écoutez bien. On va revenir maintenant à une question qu'on avait posée au premier chapitre. Vous vous rappelez dans le premier chapitre, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais en tout cas peu importe, on va le rappeler. Dans le premier chapitre, on a rappelé Job. Job, il s'est plaint à Dieu. Vous savez, Job, il s'est plaint sur beaucoup de choses. Et une des choses sur lesquelles Job s'est plaint, Job, il a dit, Dieu, tu as créé des tzadikim, tu as créé des réchaïm. Sous-entendu, pourquoi tu les punis? Qu'est-ce qu'il voulait dire Job? Job, c'est pas un imbécile, c'est quelqu'un de très très grand, Job. Qu'est-ce qu'il veut dire Job quand il dit à Dieu tu as créé des réchaïm? Maintenant comprends. Il y a des gens que tu as créés qui ont été conçus pour ne jamais être dérangés par leur Yetzarara. Il y a des gens qui ont été conçus comme une fusée, que tu envoies dans l'air et tant que tu l'arrêtes pas, elle avance pendant des années, tu reviens 1000 ans plus tard, elle est encore en train de monter. Mais il y a des gens, barat à réchaïm, il y a des gens que tu as créés comme des réchaïm. Pas ça veut dire que tu les as créés qui vont fauter tout le temps. Non! Il y a des gens que tu as créés, que jusqu'à leur dernier jour, ils seront toujours tentés par la faute, ils auront toujours envie de fauter. Et ça, Job l'a vu. Job, il a pris du recul, il a dit, je comprends pas. Il y a des gens, ils sont conçus pour faire le bien. Il y a des gens, ils sont conçus pour tenter de faire le mal. Et toute leur vie, jusqu'à leur dernier jour, ils seront tentés de faire le mal. Pourquoi t'as fait ça? Ça, c'est la question de Job. Veloche yureshaim behemet razeshalom. Ce que Job voulait dire, c'est pas que Dieu a créé des mécréants. Parce que personne n'enlève le livre arbitre. Personne n'est créé mécréant. Ça n'existe pas. Tout le monde peut devenir quelqu'un de bien. Qu'est-ce que Job voulait dire lorsqu'il a dit tu as créé des mécréants? C'est-à-dire tu as créé des gens qui, naturellement, ils sont toujours tentés d'être mécréants. Tu as créé des gens qui ont ce qu'ils appellent en yiddish zitzfleisch. C'est ce que c'est zitzfleisch. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu il a créé des gens qui sont conçus pour rester assis 20 heures sur une chaise, il n'y a pas de problème, il peut étudier le Torah non-stop. D'un autre côté, Dieu, il a créé des gens qui sont conçus pour être rachats. C'est-à-dire que le moteur, tu le laisses, il va rachat. Et même à 80 ans, tu le lâches dans la nature, pac, il vit rachat. Ça, Job, il l'a vu. Il dit, pourquoi t'as fait ça? Et là seulement, comme il dit ici. Chez Yagi, à Aléem, qui m'a assez à Réchaïm. Job, il dit, il s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, pourquoi Dieu t'a fait ça? Pourquoi Dieu, tu as fait qu'il y a des gens qui peut-être ne seront pas Réchaïm sur le plan de l'action? Mais sur le plan des pensées qui vont leur tomber dans la tête, ils auront des pensées comme des réchaïm. Ça veut dire qu'ils auront des pensées qui vont leur tomber dans la tête, dignes des plus grands réchaïm. Et ça, Job l'a vu. Il dit, pourquoi t'as fait ça? VMIU, donc, Bemarshavtam, Beirouam, Leva. Parce que rappelez-vous, dans le premier chapitre, on a posé une question. On avait dit, d'un côté, Job, il a dit, il s'est plaint, il a dit à Dieu, pourquoi tu as créé des réchaïm? D'un autre côté, on a dit que lorsqu'on est créé, d'accord, il y a un malhard qui annonce ce qu'on va devenir. Vous vous rappelez? Et cet ange qui annonce qu'on va devenir, il annonce est-ce qu'on sera riche, est-ce qu'on sera pauvre, est-ce qu'on sera beau, est-ce qu'on sera moche, il annonce tout. Mais une des choses qu'il annonce pas, c'est quoi? Est-ce qu'on sera tzadik et rachat? Alors, il faut se décider. Pourquoi Job dit tu as créé des réchaïm, alors que de l'autre côté, on n'annonce pas avant de descendre si on sera tzadik ou rachat? Et là, on a la réponse maintenant. C'est quoi la réponse? Dieu n'annonce pas avant qu'on descende sur terre, est-ce que la personne va bien se comporter ou mal se comporter? Ça dépend de l'homme. C'est moi qui vais décider. Même Dieu l'annonce pas. Kaviachol, si on peut dire, même Dieu ne le sait pas. Entre guillemets. Mais, ce que Dieu sait, c'est la nature avec laquelle il a créé quelqu'un. Il y a des gens que Dieu écrit avec une nature de tzadik, il y a des gens que Dieu écrit avec une nature de racha. Et chacun se connaît. Chacun, il sait dans sa vie, ça va en Rosh Hashanah, c'est le moment du bilan, qu'il y a des choses dans notre vie dans lesquelles on a été créé, on sent qu'on a une nature de racha. Et on sent que ça avance pas. Tu sens que ça fait 20 ans, ça avance pas, ça bouge pas. Donc, comment tu te dis, mais pourquoi, à quoi ça sert? Ça, c'est la réponse. La réponse, c'est qu'à un moment, tu comprends que t'as été conçu comme ça. Et ça rien de tomber dans la déprime, c'est que t'as été conçu comme ça. Que peut-être que Akadosh Baruch Hu, ça c'est son plaisir, ça c'est son but, de savoir qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on va repousser le mal. Ça c'était l'argument de Job. Et ça c'est la réponse qu'on donne à Job. D'accord? Qu'est-ce qu'on répond à Job? Ce qu'on répond à Job, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, et là on répond à ta question Michael, Akadosh Baruch Hu, il a deux gammes de personnes dans le monde. Il a des gens qu'il a conçus pour être tzaddik, et que leur travail c'est de faire du chiffre. Et il a des gens qu'il a conçus, il a des gens qu'Akadosh Baruch Hu il a conçus pour être rachat, et leur travail, c'est que bien qu'ils ont été conçus pour être rachat, quand même ils ne le seront pas. Et là, il va donner un exemple intéressant.
Tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas au départ s'il va être rachat ou chacham.
Non, c'est-à-dire comme ça, je vous donne un exemple.
Vous avez dit au moment de la
je vais vous donner un exemple. Imaginez que ça c'est du poison, ça c'est... Un élixir, exactement. Ça, c'est du poison, ça, c'est un élixir. Bon. Il y a des gens comme les tzadikim, naturellement, ça l'intéresse pas. Il est intéressé que par ça. Donc c'est clair, il ne prendra que ça. Lui, il est conçu pour ça. Ça, c'est les gens que Dieu crée de tzadik. Maintenant, même celui-là, s'il veut prendre le poison, il pourra le prendre. Mais il a été conçu pour être comme ça. Donc, il y aura de fortes chances qu'il sera comme ça. Maintenant, il y a des gens comme nous. Des gens comme nous qui ont été créés potentiellement rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, on leur met ça et ça devant. Et instinctivement, ça les intéresse plus que ça. Le poison les intéresse plus que l'élixir. Alors, quand tu fais ça à une personne, on peut pas décider qu'est-ce qu'il va prendre. Parce que c'est vrai qu'il pourra toujours, il aura toujours le libre arbitre de dire, je prends pas le poison, je prends l'élixir. C'est son choix. Mais quand tu sais que tu as fait en sorte que le poison est plus attirant, et de fortes chances que le poison, on va le prendre.
Donc il est où le libre?
Donc du coup, Dieu ne décide pas est-ce que je serai tzadik ou rachat. Dieu ne décide pas est-ce que je vais prendre le poison ou est-ce que je vais prendre l'élixir. Ça, Dieu ne décide pas. Par contre, Dieu décide l'environnement dans lequel il me met. Et l'environnement dans lequel il me met, est-ce que ce sera un environnement dans lequel j'aurais plutôt envie d'être tzadik, donc prendre l'élixir, ou est-ce que j'aurais plutôt envie d'être rachat? Et ça, Job, il a vu. Il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il y a des gens que tu as conçus pour être tzadik, c'est-à-dire que directement ils sont intéressés par l'élixir, il y a des gens que tu as conçus pour être rachat. Ça ne veut pas dire qu'ils seront rachat, ils seront peut-être pas rachat, mais tu as conçu pour ça. Donc ça, c'est la question de Job. Et donc, là, on revient à la question de Michael. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est la question du début du cours. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait en sorte que il y a des gens qui sont conçus pour être sadiques, qui sont conçus pour être des types bien. Il y a des gens que constamment, dès qu'ils voient une bêtise, ils ont envie de la faire. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils voient une bêtise, ils ont envie de la faire. Et à chaque fois, ils se travailler, se retenir, je la fais pas. Mais pourquoi Dieu il a fait ça? Alors là, il va donner une image extraordinaire. Pour expliquer comment en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a deux types de travailleurs dans le monde. Il a des gens qui sont conçus pour être sadiques, et il a des gens qui sont conçus pour être rachat et qui deviennent bénis. Deux types dans le monde. Pour expliquer ça, on va revenir à un épisode qui s'est passé dans la Torah. Pour rappeler, lorsque Yitzhak, il avait faim, il a demandé à son fils Esav, il lui a dit, va selim mat'amim ka'asher ahavti. Il lui a demandé, il lui a dit, prépare-moi des plats comme j'aime. Il a demandé à son fils Esav. Vous connaissez la suite de l'histoire, c'est qu'en fin de compte, au lieu que soit Esav, bon, sa mère, elle a eu vent du projet, donc au lieu que soit Esav, qui est parti? C'est Yaakov qui est parti, il a amené le plat. Le Zohar pose la question, il dit, pourquoi il dit des plats? C'est quoi les plats? C'est quoi ces plats? Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit, dans les deux plats, il y avait un plat salé et un plat sucré. Maintenant, quelle est la différence entre le salé et le sucré?
C'est le goût, c'est pas le même goût.
Dans le concept, conceptuellement.
Ah. L'élixir,
c'est le fermier. Non, pas l'élixir, oubliez ça.
La douceur.
Le sucre, c'est la douceur, c'est le fermier.
D'accord. Quelle est la différence entre un plat salé et un plat sucré? Pourquoi il y a des gens qui préfèrent les plats salés et des gens qui préfèrent les plats sucrés?
Un plat salé, ça contente une personne. Un plat sucré, c'est quelque chose qui...
Il y a des gens qui te disent non, pour eux, ce qu'ils contentent, c'est un plat sucré. Alors, je vais expliquer la différence.
C'est l'un, c'est le contraire de l'autre.
La différence est très simple. D'accord. La différence est très simple. Il y a une différence fondamentale entre le plat salé et le plat sucré. Quand tu prends quelque chose de sucré, le sucre c'est bon par définition, par nature. On n'a pas besoin de le rendre bon, il est déjà bon. Seulement, on va l'adapter, on va le mettre en forme pour faire profiter la personne. Mais le sucre est déjà bon. Mais quand tu prends quelque chose de salé, tu prends un légume, tu prends quelque chose de salé, naturellement, il n'est pas bon. Il faut le faire travailler. Et quand tu vas le faire travailler, tu vas le transformer de quelque chose qui n'était pas bon en quelque chose qui est bon. C'est exactement la même chose, la différence qu'il y a entre le travail d'un tzaddik et le travail d'un bénévole. Le tzaddik, c'est comme du sucre. Il est bon. Il n'a pas besoin de devenir bon. Il est déjà bon.
D'office.
D'accord ? Les gens comme nous, naturellement, on est créé salé, on est créé, c'est pas bon. Mais quand tu vas le faire revenir, comme un oignon, quand tu vas le faire revenir, tu vas le faire travailler, etc. Là, quand tu vas le faire revenir, là, ça va devenir un plat qui est bon. Si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus bon entre les plats salés et les plats sucrés, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Le salé, c'est le salé, le sucré, c'est le sucré. On ne mélange pas le salé et le sucré, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est deux choses différentes. Le salé, c'est le salé, le sucré, c'est le sucré. Et il faut les deux. Dans un bon repas, tu as le salé et le sucré. Et c'est pas incompatible. Au contraire, ils sont complémentaires. De même manière à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il a deux types de plats. Il a deux types de personnes. Il a des gens comme les tzadikim qui sont sucrés. Que leur travail, c'est quoi ? Il est déjà bon, mais il va devenir encore plus bon que bon. Hein, plus blanc que blanc. Plus bon que bon. Là, c'est le tzadik. Il est déjà bon, mais il va réfléchir comment je peux être encore mieux que mieux. Bon. Il y a un proverbe en yiddish qui dit « Si bien, c'est bien, mieux, c'est pas mieux. » Ah, c'est le tzaddik, ça. Le tzaddik, il dit, bon, c'est bien, mais je vais faire encore mieux. Mieux. Ça, c'est le tzaddik. Mais il y a des gens comme nous, après. Des gens comme nous que c'est pas comme ça que ça marche. Des gens comme nous qui, naturellement, ils sont salés. Naturellement, c'est pas bon. Et à chaque fois, on essaye de rendre bon la chose. Mais comme, naturellement, elle est pas bonne, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. De la même manière que quand on mange les plats, il y a deux types de plats et que c'est différent. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, il a deux types de plaisirs par rapport aux créatures qu'il a créées. Tu me suis, Michael? Il y a un premier plaisir qu'il a des tzadikim. Il a un plaisir, c'est le bon élève, c'est un premier de la classe. Mais il a un plaisir d'avoir des gens aussi, comme nous, qui sont potentiellement rechaïm. C'est comme si je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui a un plus grand plaisir ? D'avoir un enfant premier de la classe ou d'avoir un enfant, un cancre, qui a réussi à avoir des bonnes notes ?
Le cancre qui a réussi.
Ça dépend, c'est deux plaisirs différents. Bah, on ne peut pas les comparer.
Il a beaucoup plus de mérite, le cancre.
Je ne parle pas de mérite. Je vous demandais qu'est-ce qui procure le plus de plaisir.
Et c'est celui qui a fait le plus d'efforts, etc.
Mais d'un autre côté, un enfant premier de la classe, c'est un kiff.
Premier de la classe, on a envie de lui donner les
vaches. Oui, mais enfin bon.
Alors, comment ça marche ? C'est pas la même chose. C'est deux plaisirs différents. Celui qui est premier de la classe, son travail, c'est de faire la performance, de faire encore mieux que mieux. Celui qui est cancre, son travail, c'est de repousser son etc. pour faire le bien. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Celui qui veut que son fils qui est cancre devienne premier de la classe, il a rien compris. Le but du fils qui est cancre, c'est pas de devenir premier de la classe. C'est de réussir à avoir de temps en temps des bonnes notes. Et ça, c'est déjà le but, il est gagné. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre. Et donc, c'est pas incompatible. Donc avec ça, on répond à la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé des gens? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, d'un côté à nous, il nous donne des tentations mauvaises et aux tzadikim, il ne donne pas? Parce que les tzadikim, ils ont pas le même but que nous. Les tzadikim, leur travail, c'est le sucre. Nous, leur travail, c'est le sel. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. On ne compare pas. Ce qu'il dit ici maintenant. D'accord? Donc, encore une fois, notre but ici maintenant, c'est de rassurer le Benoni, qui a toujours des pensées tordues qui viennent dans la tête, de lui dire, t'inquiète pas, tu fais une mitzvah. De lui dire, t'inquiète pas, c'est Kadosh Baruch Hu qui t'envoie ça. Quand tu repousses le mal du monde entier. Ne t'inquiète pas. D'accord? Tu dois savoir qu'en vérité, Dieu, il t'a créé comme ça, et c'est Dieu qui t'a créé comme ça, c'est Dieu conceptuellement qui t'a créé comme ça, ne sois pas déprimé de ça. Toi, en vérité, tu es comme un plat salé, qu'on essaye de rendre doux, qu'on essaye de rendre bon. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas.
Et pourquoi? Pourquoi?
On a expliqué, parce que ça, c'est le plaisir d'un Kadosh Baruch Hu, le chidouche, la nouveauté.
Mais pourquoi il y a un goral comme ça?
Ça, c'est pas moi qui décide.
On
n'est pas en train d'expliquer pourquoi un il est tombé comme ça, l'autre il est tombé comme ça. C'est pas mon travail. On essaie juste d'expliquer pourquoi il y a deux types. Après, pourquoi moi je suis comme ça, lui il est comme ça, c'est une autre question. C'est Dieu qui décide.
Malgré toi,
c'est la marque.
C'est pas moi qui décide la nature que j'aurai. Ça, je peux rien y faire.
J'ai compris, mais pourquoi le bon Dieu.
Tu peux poser la question à Dieu. Mais en tout cas, ce qu'on comprend déjà maintenant, on comprend comment il y a deux gammes de plaisir chez Kadosh Baruch Hu qui n'ont rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On peut pas les comparer.
On est juste des plats pour lui, classe.
Je te donne un exemple. Par exemple, quand tu vois par exemple, il y a des gens par exemple, ils vont aller dans des endroits, on va te montrer comment un chien ou comment un chat, il va être capable de lever un plateau, de lever un truc, etc. Mais moi, je peux te lever le plateau. Pourquoi tu vas me montrer un chat qui va le faire ? Parce que chez le chat, c'est nouveau. Donc il y a deux types de plaisir. T'as un plaisir quand tu vois un homme faire quelque chose, t'as un autre plaisir quand tu vois quelqu'un qui normalement n'est pas capable de le faire, et quand même il le fait. Le plaisir qu'a Kadosh Baruch Hu, c'est que nous, finalement, on est comme des petits bébés qui tombent constamment, et qu'on est toujours sur le fil du rasoir, et qu'à chaque fois, on essaye, et bon, des fois on tombe, mais quand on tombe pas, Dieu dit, bah bravo, t'es pas tombé,
il n'a plaisir. Et comment tu fais pour pas te révolter
contre ça? Ça veut dire comme ça. Excuse-moi. Ça veut dire comme ça. Le tzaddik, d'accord, hein. Le tzaddik, pour que Dieu l'applaudisse, il faut vraiment qu'il fasse des grands efforts. Vraiment qu'il fasse de la grande performance. Moi, pour que Dieu m'applaudisse, il faut que, juste une fois, je tombe pas et j'arrive à rester debout, Dieu m'applaudit comme on applaudit le bébé. Parce que Dieu, il sait que c'était pas gagné et qu'on aurait pu tomber. C'est rien. D'accord.
C'est une arme, mon Dieu.
Voilà. Ok. Dans les mots. Non, pas ça, il faut poser des questions. Monsieur Benetel, je vous entends pas, c'est bizarre. Alors,
non, mais là, le coup du plat sucré,
ça lui a plu. Ça lui a plu, hein. C'est un bel exemple. Moi, j'ai trouvé cet exemple magnifique.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est un bel exemple. Tu vois, les Marocains, ils mélangent le sucré et le salé.
Ouais.
C'est intéressant, d'ailleurs.
C'est très bon.
C'est intéressant de mélanger le sucré et le salé.
Avec cuisine, enfin.
Quand tu fais par exemple un poulet caramélisé ou un poulet sucré, c'est intéressant parce que tu mélanges le sucré et le salé. Normalement,
les pruneaux. Poulet ou pruneaux avec les amandes.
Vous prenez la dafina, c'est plus simple.
Bon, on va continuer.
Ils n'ont pas fait finalement les deux plats.
Les
deux plats, ils n'ont pas fait.
Il lui a fait de ça, en fin de compte.
Un seul plat.
Oui. C'est quoi le tsaïd? C'est le Benoni. Donc dis maintenant dans les mots, alors on fait encore quelques lignes, on va s'arrêter. Merci. Donc je suis dans les mots, on est ici, page 23 en bas de la page. Ushne mine nachad ruach. Lefanav itbarech lemala. Akadosh Baruch Hu, il a deux types de plaisir devant lui. Prometti de plaisir. Mi bitoul echad, le premier. Mi bitoul asitra haral gamre. Le premier type de plaisir, c'est pour ceux qui arrivent complètement à transformer le mal. Et transformer le mal en bien. C'est ce qu'on appelle en hébreu, en araméen, pardon, it apra. Ça veut dire que l'ennemi, il a transformé en ami. Veit apra mimeru le mitka. Ceux qui arrivent à transformer l'amertume en douceur. Ou mechashera lin aura. Ceux qui arrivent à transformer l'obscurité en lumière. Chez eux, que ça s'est fait par qui? Ça s'est fait par les tzadikim. Ça, un tzadik, il est capable de te transformer un mal en bien. Le tzadik, il n'y a pas de mal chez lui. Il n'y a que du bien. Ça, c'est un tzadik. Transformer l'amertume en douceur, l'obscurité en lumière, etc. Ça, c'est le tzadik. D'un autre côté. Vachéni, Takadosh Baruch Hu, il a un deuxième type de plaisir. On a tourné la page, page 24. C'est quoi le deuxième type de plaisir? Ika, dit kafia, sitra, hara. Akadosh Baruch Hu, il a un deuxième type de plaisir quand on arrive à faire fléchir les forces du mal. Le fait de me voir à chaque fois réussir à faire fléchir les forces du mal, ça lui fait un plaisir. Maintenant, il faut bien comprendre, si on avait réussi à les mettre par terre et à tuer les forces du mal, dans ce cas-là, il y aura plus ce plaisir. Pour faire en sorte que ce plaisir reste là, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le Yitzhara, il est tout le temps là en veilleuse. Et même lorsque tu crois que tu l'as tué, tu l'as pas tué. Tu l'as mis en veilleuse. Mais il va revenir.
De toute façon,
il va revenir, c'est sûr qu'il va revenir. Ce qu'il dit ici. Pourquoi? Parce que le deuxième type de plaisir, c'est quand on fait uniquement itkafia. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir du fait qu'on va réussir à fléchir le Yitzhara. Mais, be'oda be'tokfa ukvurata. Et le plaisir, c'est quand elle reste aussi forte qu'elle était au début. Elle reste très très forte. Umisham morida Hashem. Et c'est de là-bas que Dieu Hashem l'a fait descendre. Be'itaruta diltata alida benonim. Par le réveil d'en bas, c'est-à-dire que quand le Benoni fait un travail pour faire descendre, d'accord, pour casser son Yitzhara, c'est un effort qui est très très dur, qui lui coûte énormément, c'est très très dur, c'est une guerre. C'est un plaisir extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. C'est un plaisir de voir comment une personne est capable de changer, comment une personne est capable de faire fléchir son mal. Mais Zehu Shamar Akatou, j'ai accès là, parce qu'on l'a déjà expliqué à l'oral. Mais Zehu Shamar Akatou, avec ça on va comprendre ce que le verset a dit. Va selimat amim kasher ahavti. Avec ça, on va comprendre pourquoi Yitzhak il a demandé à son fils, prépare-moi des plats comme j'aime. C'est quoi des plats? Mat amim, des plats. La chandrabim, c'est au pluriel. Pourquoi? Shneminen achadroar, parce qu'il y a deux types de plaisir, deux types de plats. Vehu, maamar ashrina levanea. En vérité, ça c'est une parole que la Shrina est en train de dire à ses enfants. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en train de parler à nous, les âmes Israël. Il leur dit, faites-moi des plats. C'est quoi les plats? Le plat des tzadikim, le plat des rechaim. Le plat des tzadikim, c'est ceux qui font de la performance. Le plat des rechaim, c'est ceux qui font, enfin, de ceux qui sont conçus pour être rachats. Ceux qui font pas de la performance, mais que chaque fois, c'est des efforts très durs qu'ils font. Je sais pas si j'ai donné cet exemple à cette série du cours de Tania. Sinon, c'était bon, c'était, je crois, l'année dernière, c'était la dernière série, donc ça fait quelques années. Vous savez, c'est comme dans les courses de voiture. T'as deux types de courses. T'as un premier type de course dans lequel on te prend une voiture, on la met sur une ligne droite, dans le désert par exemple, et on dit, ton travail, c'est d'aller le plus vite possible. Donc on va essayer de mettre des technologies, d'hydrogène, tout ce que tu veux, pour qu'elle aille le plus vite possible. On est capable aujourd'hui de faire monter des voitures à 1000 km/h, 1100, 1200, vous allez dépasser la vitesse du son. Mais c'est une ligne droite. C'est-à-dire, on te dit, voilà, il faut qu'en un laps de temps, tu te fasses une distance en moins de temps possible. Ça, c'est un premier type. D'un autre côté, d'autres courses, d'accord, enfin, bon, dans lesquelles on te met, par exemple, voilà, on te donne un challenge, on te met dans une montagne. On n'attend pas ce que la personne va rouler à 200 km/h, il ne peut pas rouler à 200 km/h. On va le mettre dans des montagnes, avec la boue, avec des galères, avec la pluie, avec la neige, avec des galères. Il va rouler à 50, 60, 70, il roule doucement, par rapport à l'autre qui roule à 1200 km/h. Et pourtant, c'est aussi une course et les gens regardent. Quelle est la différence entre les deux courses? Très simple. L'avdil, mais bon, la première course, c'est comparé au tzadikim. Dans la première course, c'est la performance. Ça veut dire qu'il faut accélérer le plus vite possible. C'est droit, c'est une ligne droite. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Il faut juste que toi, tu avances, tu donnes tout ce que tu peux, et tout ce que tu peux, ça avance. Dans le deuxième, c'est comme le Benoni. On ne te dit pas que tu vas faire la performance, tu n'iras jamais 1000 km, tu ne seras jamais comme un tzadik. Mais par contre, tu auras à chaque fois des virages, et des problèmes, et les pneus qui éclatent, et il faut que c'est pour recharger, etc. Moi, Serge, il n'est pas là, et, etc. Tu auras des challenges. On n'attend pas que tu fasses des performances, on attend que tu surmontes les obstacles. Oui, ça, c'est le bonheur. Et c'est ça le plaisir. Le plaisir, quand je regarde, je dis pas, ah, il a roulé, bravo, il a roulé à 70 km/h. J'en ai rien à faire de sa vitesse, c'est pas la vitesse qui m'intéresse ici. La vitesse ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir avec quelle habilité il arrive à surmonter les obstacles. Et ben, c'est la même chose, moi aussi. Tu as le tzadik qui fait de la performance, ça, c'est le tzadikim. Lui, pour impressionner Dieu, il faut vraiment qu'il roule à 2000 km/h. Sinon, bon, dis-moi, c'est normal, c'est droit, il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'arrête, tu veux qu'il roule plus vite. C'est normal. Mais quand on est des gens comme nous, qu'on a des montagnes partout, on a des obstacles partout, c'est pas la vitesse qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de voir comment on contourne. C'est ce qu'il dit ici.
Alors, normalement.
Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand Yitzhak a dit à prépare-moi des plats. En vérité, dans l'image, on dit, c'est qui Yitzhak, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et c'est à qui il parle à Kadosh Baruch Hu? Il parle à nous. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, préparez-moi des plats. Il y a les plats des tzadikim. Il y a les plats des gens qui sont pas tzadikim. Il y a les plats des tzadikim, que eux, leur travail, c'est de faire la performance. Leur travail, c'est de transformer le mal en bien. Il n'y a pas de mal pour eux. Il y a que le but, c'est seulement de faire mieux, plus bien. Mieux que mieux. Ça, c'est le travail des tzadikim. Il y a le travail des benonim. C'est quoi le travail des benonim? Le travail des benonim, comme on a dit, c'est de faire en sorte de surmonter les obstacles. Et ça, c'est le plaisir. De la même manière que nous, on voit qu'il y a des gens qui voient une course, des gens qui voient l'autre course, et des gens qui voient les deux. Et dans chaque type de course, t'as un plaisir différent. Comme dans le plat salé et sucré, comme on va dire maintenant. On va terminer avec ça. La même manière qu'avec le plat matériel, on va s'arrêter ici. Donc juste en haut de la page 25. Comme dans les plats matériels, derech machal, yeshlemine ma'adanim, il y a deux types de plats. Il y a un type de plat arevim, des plats qui sont doux, ou metukim, qui sont agréables. Ça veut dire que t'as pas besoin de le faire revenir.
Sucré.
Il est déjà bon. Il est déjà positif dès le départ. Il était déjà bon, et on l'a rendu encore mieux. On l'a assaisonné. T'as pris un fruit, par exemple. Il était déjà bon, le fruit. Seulement, on l'a assaisonné, on l'a rajouté une petite sauce, etc., qui fait qu'il est encore mieux. Mais il était déjà bon. Tu l'as pas transformé.
Mais metukim, ça veut dire sucré.
Doux. Oui, il était déjà bon. Attends. Comme un fruit. Il est déjà bon, mais on t'a fait une salade. Bon, on a donné un goût encore mieux. Mais il était déjà bon. D'accord? Il était déjà bon. Par contre, VHNI. Par contre, il y a un deuxième. Midvarim, il y a des choses. Harifim ou Hamoutim. Il y a des fois des choses qui, naturellement, ils sont harif ou Hamout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont piquants. D'accord? Ou ils sont aigres. Ils sont pas bons. C'est pas bon. Il y a des légumes comme ça, des choses de la nature, que naturellement, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça se mange pas. Seulement, Shem metoubali ou toukani metev. Mais on va les épicer, on va les préparer soigneusement. Ah, tchena, souma, danim. Jusqu'à quand on va goûter, on va dire, waouh, c'est bon. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Il y a le plat salé, il y a le plat sucré. Il y a celui qui est bon naturellement. il y a celui qu'on va rendre bon. D'accord? Et au contraire, les hashiva nefesh, vous savez, ces plats-là, hein, ces plats qui à la base n'étaient pas bons et qu'on va les rendre bons parce qu'on va les épicer, et bien quelque part, ces plats, les hashiva nefesh, ce sont eux qui vont ranimer l'âme. Vous savez, lorsqu'il y a une personne, par exemple, qui se sent pas bien, qu'est-ce qu'on met pour le ranimer? On le fait sentir quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que quand c'est quelque chose de fort, ça fait appel à l'essence de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu croyais être amer, en vérité, quand tu arrives à le travailler, il a une force en lui extraordinaire que tu ne disais même pas que tu avais. Ben, c'est exactement la même chose. D'ici, c'est la même chose que par rapport au Benoni. Non seulement, alors juste, je vais terminer avec ça. Si je vous pose une question maintenant. Entre le travail du tzaddik et le travail du Benoni, lequel procure un plus grand plaisir à Kadosh Baruch?
Le Benoni.
C'est le Benoni. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne, par exemple, se sent pas bien,
c'est pas le même plaisir.
D'accord? Qu'est-ce qui va le ramener? Qu'est-ce qui va le réanimer? D'accord? Ce qui va le réanimer, on a dit, c'est ce qui est justement aigre et piquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça ce qui est plus lié à la personne. C'est ce qui est plus lié à la personne. Donc, de la même manière, c'est expliqué, qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il a plus de plaisir du travail d'un Benoni, que du travail d'un tzaddik. On a plus de plaisir. C'est-à-dire comme ça, imaginez, vous avez dans votre famille, dans une famille, il y a deux enfants. Un cancre et un premier de la classe. Premier de la classe, chaque semaine, ramène des 10, descend, pas de problème. L'autre, bon, il n'a pas de bonnes notes, mais oui. Une fois, waouh, il t'a fait un super carnet. Lequel va te procurer plus de plaisir?
Le deuxième. Cancre.
Celui-là, en une fois qu'il t'a fait un bon carnet, il t'a fait plus de plaisir en cette fois que toutes les autres fois de l'autre. Pourquoi? Parce que c'était pas gagné. Ça veut dire qu'en vérité, le tzaddik que tu crois que c'est lui qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, le tzaddik fait moins plaisir à Kadosh Baruch Hu que moi.
D'accord? Parce qu'il fait moins d'efforts.
Bon. Seulement, le tzaddik, il a une autre fonction. Sa fonction, c'est pas de faire plaisir à Dieu. Sa fonction, c'est de travailler.
C'est lui qui a le téléphone rouge avec Dieu, alors.
Parce qu'encore une fois, lui, son travail, c'est de faire la performance. Bien sûr qu'à son niveau, il a pas le droit à l'erreur.
Le Benoni fait plus d'erreurs droit, donc.
Le tzaddik, c'est un pilote de chasse. À son niveau, bien sûr qu'il a pas le droit à l'erreur. C'est sûr qu'il a pas le droit à l'erreur. Mais moi, je suis pas un pilote de chasse. J'ai ni le moteur, je suis ni pilote.
C'est celui qui fait le plus de plaisir.
Ce qui est celui qui fait le plus de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu préfères, le plat salé ou le plat sucré? Attendez.
C'est la mesure de l'esprit.
Qu'est-ce qui nourrit le plus une personne? Excuse-moi, réponds à ma question. Qu'est-ce qui procure le plus de plaisir à une personne? Quand tu vas au restaurant.
Le sucré.
Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? D'accord? D'accord? Le salé ou le sucré? C'est évident que c'est le salé. Il n'y a pas de question. Il y a pas, la question se pose même pas. D'accord? Un plat.
Ah, dans le plat, oui.
Un plat, c'est quoi un plat?
Tu vas manger quoi?
D'accord? Le plat, c'est un plat salé. Ça, c'est un vrai plat. À moins que vous êtes tzadikim. Vous savez, on dit d'ailleurs que les tzadikim, ils aiment beaucoup le sucre. C'est sérieux, hein?
Mais eux-mêmes, ils sentent du sucre.
On dit que les tzadikim, ils aiment beaucoup le sucre.
Et eux-mêmes, ils sentent du sucre.
Ouais.
C'est pas ça, ma
question. Oui. Excusez-moi, j'entends pas la question.
Tu dis ça, vous direz, le plus de plaisir, c'est le Benoni.
Oui.
Mais ça, t'as pas l'air
comme nous.
Oui.
Comme bouse de vache. C'est nous qui devrons pouvoir intercéder auprès de Dieu pour lui demander des brachot. On passe par le tzadik.
Ah, parce que malheureusement, nous, on faute. Si on faisait que ne pas fauter, alors c'est sûr qu'on aurait plus de puissance, mais malheureusement on faute. Donc on n'est pas. On n'est pas Benoni, bien sûr qu'on n'est pas Benoni. Le Benoni ne faute jamais.
Voilà, on parle du Benoni ici, c'est pas.
Non, nous on essaye d'être Benoni.
On aspire.
On aspire à être Benoni. D'accord? Comment ça se fait que? Le mode d'emploi c'est le même parce que ce qu'on demande de Dieu c'est la même chose, c'est de faire ce que Dieu demande.
Tu
as raison, mais le mode d'emploi, ça veut dire comme ça. D'un tzaddik, on n'attend pas qu'il fasse juste la mitzvah. On attend de lui lui, son challenge, c'est de mieux faire la mitzvah. Mais des personnes qui n'est pas tzaddik, on lui demande de faire la mitzvah. C'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes challenges. Donc, Rabotai, juste pour terminer, on a déjà dépassé un petit peu, je crois.
On n'est pas dans la même vie.
D'accord? Juste pour terminer, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on a expliqué que on n'a pas de raison d'être déprimé. On arrive maintenant à Rosh Hashanah et on voit que chaque année on bute sur les mêmes problèmes. Et à un moment on en a marre, ça nous casse les pieds. On dit on en a marre de travailler sur les mêmes problèmes. Il faut pas réfléchir comme ça. Il faut pas réfléchir comme ça. Il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est intéressé par nos efforts. Et Akadosh Baruch Hu, il fait exprès de nous mettre des bêtises dans la tête. Comme ça, chaque fois qu'on le repousse, Akadosh Baruch Hu, ça lui procure un plaisir extraordinaire. Un plaisir énorme. Pourquoi il a besoin de plaisir? Ça en verra chapitre 36. En tout cas, ça lui procure un plaisir énorme. Ça lui procure un plaisir qui est comme le plaisir des plats salés, des plats qui n'étaient pas bons. Et qu'on fait revenir et qu'après ils deviennent bons. C'est un plaisir énorme. Quand tu prends quelque chose qui n'était pas bon et tu l'as rendu bon, c'est un plaisir extraordinaire. Donc on n'a pas de quoi être déprimé. Et comme on a expliqué au début du cours, en vérité, on doit savoir que Dieu, il nous met ces choses-là dans la tête. Comme ça, on les repousse. Quand on les repousse, on lui fait plaisir. Et pas seulement qu'on lui fait plaisir. En repoussant le mal qu'il y a en moi, je repousse le mal qu'il y a dans le monde entier. Par le système exponentiel, comme on a expliqué longuement au début du cours. Donc, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, on raconte qu'une fois, il y a une personne qui est venue voir un rabbi, et qui lui a dit, rabbi, je vous demande une bracha pour que le travail soit plus facile. Pour que j'arrête d'avoir des pensées comme ça. Bon, demander, tu peux demander. Mais, en vérité, quelque part, ça sert à rien de demander. Parce que, de toutes les façons, ce que Dieu, il a décidé, ça arrivera. Les pensées, il les enverra. Parce qu'il intéresse, si t'as envoyé une pensée, c'est qu'il a intéressé que tu l'as dans ta tête. Il a intéressé qu'elle vienne dans ta tête et que tu la repousses. Et ça, c'est ce qui l'intéressait. Ça, c'est ta mission maintenant. Ma mission maintenant, c'est pas de finir tout le chasse. Ma mission maintenant, c'est selon ce que Dieu m'a envoyé, c'est de repousser les idées tordues qui m'ont envoyé dans la tête. Et en faisant ça, je fais ma mission et j'accomplis un but autant qu'un tzaddik le fait en étudiant la Torah toute la journée. Et peut-être même plus fort, comme on a expliqué ici. Parce que le tzaddik, c'est inné chez lui, alors que chez moi, c'est pas inné. Chez moi, c'est un effort. Donc, tout ça, c'est pour nous rassurer, pour nous dire qu'il faut prendre des bonnes décisions, Bezrat Hashem, d'écraser nos Tetzara au maximum. Si on donne un bon coup de Tetzara là maintenant pendant Rosh Hashanah, peut-être qu'il va nous laisser tranquille un mois, deux mois, trois mois. Et bon, après, il y aura un autre Rosh Hashanah l'année prochaine, c'est tout.
Ouais, les chiens.
Voilà. Allez, c'est comme ça.